Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout de suite après cette émission. Comme tous les jours, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée. C'est qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons le centre de biodiversité Jean Rostand, qui nous arrive de Pouilly-des-Sceaux. Nous avons Mathilde Touraton, responsable du centre, et Patrick Leys, administrateur et trésorier. Bonjour tous les deux, comment allez-vous ?
Bonjour, nous allons très bien, merci de nous recevoir.
Pareil, bonjour, je vais très bien aussi.
Très bien, alors on va passer une petite heure ensemble, on va découvrir nos invités et ce beau centre de biodiversité, son histoire, parce qu'il y en a, déjà il y a un nom, forcément, vous allez entendre parler souvent de Monsieur Rostand, je crois, dans cette émission. Nous voilà de retour avec Mathilde et Patrick, donc tradition oblige, on commence toujours l'émission par cuisiner un petit peu nos invités, avoir une petite idée de qui ils sont et leur demander une petite bio personnelle, une trajectoire, et bien entendu, on va commencer par Mathilde, c'est normal. Alors Mathilde, parlez-nous un petit peu de vous, si vous voulez bien.
Donc, moi je suis née dans le centre de la France, à Limoges, et du coup j'y ai habité pendant plus de 10 ans, ayant un papa militaire qui a été muté. On s'est retrouvés vers Bordeaux, où j'ai habité pendant plus de 10 ans, et donc forcément, à l'adolescence, partir faire les études, et donc j'étais très attirée par le domaine agricole, et donc je suis partie dans des lycées professionnels agricoles dans les Landes, et à la suite, je m'y suis tellement plu que j'y suis restée en fait.
Ouais. Vous êtes installée où ?
Moi, j'habite à Cazères-sur-Adour.
D'accord, je connais.
Voilà.
Je connais. C'est à peu près 15 km de Mont-de-Marsan, un truc comme
exactement,
ça ?
Exactement, ouais.
C'est ça. D'accord, et donc et maintenant, vous occupez de ce beau centre.
Exactement, maintenant j'ai la chance d'avoir ce beau métier, donc je suis responsable du centre de biodiversité Jean Rostand à Pouilly-des-Sceaux.
Très bien, merci beaucoup. On va se tourner vers Patrick aussi, qui a des choses à nous raconter.
Alors moi je suis né un peu avant Mathilde,
oui.
On va dire au siècle dernier.
C'est ça.
Donc moi je suis né à Arru, c'est une petite commune de l'est du département, donc je suis une pure pigne, née à la ferme.
Oui, oui. Arru, oui.
Et ensuite j'ai travaillé dans l'administration, j'étais enseignant, donc l'administration éducation nationale m'a fait un peu promener. Donc mon premier poste c'était Saint-Hilaire-du-Harcouët. Charmante ville de la Manche.
Oui, oui.
Ensuite, j'ai fait un petit bond à la Dordogne, Périgueux. Et finalement, je suis revenu dans ma région natale, puisque la majorité de ma carrière s'est déroulée à Mont-de-Marsan, dans un lycée professionnel.
D'accord. Donc vous faites partie des anguilles. Hein. On en a parlé aux antennes, des fois j'en parle aux auditeurs en rigolant.
Absolument.
Voilà.
Anguilles, saumon, alose. Enfin,
voilà, ouais, c'est ça, ouais.
Tous ces animaux que nous connaissons bien.
Oui, voilà, qui s'en vont et qui reviennent.
Et voilà. Qui reviennent, voilà.
Bah, ça, oh, c'est un peu le sujet aujourd'hui, hein, la nature, la biodiversité, etc.
On est dans le thème.
Bah, oui, on est dans le thème. Nous sommes des animaux, ça, par contre, il ne faut pas l'oublier. Il faut qu'on l'assume, d'ailleurs.
Hein, absolument.
Pour le meilleur et pour le pire. Alors, parlons donc de ce beau centre à Pouilly-des-Sceaux. Il a quand même un sacré historique, hein. C'est quand même, bien sûr, on va en parler parce que c'est intéressant, parce que c'est aussi du patrimoine, c'est de l'histoire, de la culture et de la bioculture. C'est intéressant tout ça.
Alors, oui, l'histoire, c'est une belle histoire qui commence dans les années 60, en 62, je crois. Jean Rostand, donc biologiste de renommée nationale à l'époque. Et mondial peut-être, je ne suis pas sûr. Donc, explique à la radio, en grand vulgarisateur de la science qu'il était, qu'on vient de lui apporter dans sa ville, à Ville d'Avray, la ville où il habitait, des grenouilles qui sont dites polydactyles, c'est-à-dire qui ont des doigts surnuméraires.
Oui, oui.
Sachant qu'une grenouille a 4 doigts aux pattes antérieures et 5 aux pattes postérieures. Et là, celles-là présentent des anomalies, donc elles ont 7, 8, 10 doigts, des atrophies des cuisses, etc. Donc voilà, il est en train de s'interroger sur l'origine de cette anomalie. Un habitant de Pouilly-des-Sceaux, qui s'appelle Pierre Daré, qui lui, à cette époque, est convalescent parce qu'il est revenu de la guerre d'Algérie malade, blessé, bon bref. Et écoute cette émission, et lui aussi a observé dans une mare de Puy-de-Sault, dans ce qui deviendra plus tard le centre biodiversité, le même phénomène.
Voilà, oui.
Donc il écrit à Jean Rostand, puisqu'à l'époque ça se faisait.
Et oui, c'est vrai, oui, ça se faisait.
Il entre donc en contact avec Jean Rostand, il part de Puy-de-Sault et ses grenouilles mal foutues, rencontre Jean Rostand à Ville-d'Avray et va débuter donc une histoire qui s'est prolongée jusqu'à la mort de Jean Rostand. Donc il deviendra son collaborateur. Ils poursuivront ses études plutôt sur l'étang de Grandlieu, donc qui est situé à l'ouest de Nantes, au sud de Nantes, et dans les marais avoisinants, au-dessus de Saint-Nazaire, donc les marais de la... Il ne faut pas que je me trompe, sinon je vais me faire gronder, je crois que c'est la Brienne, pardon.
D'accord. Oui, il a eu une belle trajectoire, lui aussi, d'ailleurs, parce qu'il est parti, de, entre guillemets, je crois, autodidacte.
Ah oui, complètement autodidacte, ouais. Oui, comme moi, d'ailleurs. On n'est pas, pas scientifique au départ. Ouais. Jean Rostand est un peu vieillissant, et donc, il va lui servir de collaborateur. Mmh. À l'époque, c'est de l'artisanat, il travaille des caisses en bois qu'il faut déplacer, etc.
Et oui, voilà,
donc, notamment pour déterminer l'origine de cette anomalie. L'anomalie P,
voilà,
et donc,
ouais.
Oui, et donc ouais. Il collaborera et donc il créera Puy-de-Sault plus tard, dans les années, à partir de 75-76, ce qui est devenu le centre Jean Rostand, et maintenant centre de biodiversité Jean Rostand.
C'est ça, voilà, alors je rassure les auditeurs, a priori, rien à voir avec Tchernobyl, hein, les mutations avec les membres qui poussent, c'est vraiment de la biologie, de la génétique, des
c'était
mutations.
C'était de la biologie, ça. C'est de la génétique, voilà. Et c'était même d'origine virale. Plutôt.
Oui.
Donc, on y va de suite.
parce que c'est intéressant. Parce que c'est...
On peut alors, trois facteurs présents à Puy-de-Sault et aussi à Ville-d'Avray et aussi à l'étang de Grandlieu. Donc, l'étang, le poisson, les animaux qui venaient s'abreuver dans cet étang. Donc au départ, il pense que c'est peut-être d'origine génétique, mais le croisement de deux grenouilles dont porteurs de cette anomalie ne reproduisent pas forcément la même anomalie. Donc on peut éliminer l'origine génétique. Après, à quoi c'est dû? Donc à force de tâtonnement et d'isoler certaines années, en mettant des grenouilles en présence de poissons, donc dans une eau fréquentée par des vaches, on pouvait avoir ce phénomène-là.
Ah oui, donc un facteur externe.
C'était plutôt des facteurs pathogènes, peut-être dus aux déjections des vaches, donc ingurgitées par les poissons et qui peut-être développaient des virus qui, certaines années, se développaient sur les grenouilles.
Mmh. Alors je crois, je ne suis pas sûr, mais il semble qu'il y a... Il y a des travaux qui ont été faits sur des gènes là, de maïs mexicain là, avec des plein de différentes couleurs. Et je crois qu'il y a aussi, c'est pas à cause de la mosaïque du maïs, hein,
oui, ça, oui, absolument. Ça absolument. Ouais. Dans le domaine végétal, on peut retrouver une similitude dans ces approches-là.
Ouais. Ouais. Voilà. Donc ça vient de là. Voilà. Alors bon, c'est marrant, moi je suis content de vous recevoir, parce que moi, gamin, quand j'étais en école primaire à Mont-de-Marsan, donc je ne me rappelle pas du tout de l'année ni rien, mais j'ai fait partie des gamins en bus qui sont partis, voilà, je me rappelle très bien, une sortie scolaire, je me rappelle avoir vu des bocaux avec des drôles de choses dedans, un peu à la Frankenstein, je me dis, oula, c'est quoi ces trucs?
Ah, oui.
Vous les avez gardés dans un coin, les vieux bocaux, hein?
On les conserve encore, c'est conservation dans le formol. Donc on a toujours des grenouilles atteintes de l'anomalie P. Alors ceux que ça intéresse, Jean Rostand a écrit un ouvrage, l'anomalie P. Il a aussi écrit un deuxième ouvrage, les étangs à monstres.
Les étangs à monstres, oui, c'est ça.
Absolument, qui sont assez connus. Et par contre, on ne observe plus ce phénomène-là parce qu'il manque peut-être... la vache.
Eh oui, la vache. Dans l'équation, elle n'est plus là.
Dans l'équation, elle n'est plus tout à fait complète.
D'accord. Ouais. Oui, alors voilà, on va rappeler, bon, s'il est besoin, Jean Rostand, c'est le fils d'Edmond, le fameux de Cyrano de Bergerac.
Oui, c'est ça, le nom de Rostand est plutôt connu dans la région, puisque Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, la ville d'Arnaga.
Voilà, ils viendront d'ailleurs à Arnaga ici, on parlera de tout ça. Donc
Jean Rostand a passé son enfance à Arnaga.
Ouais, mais oui, bien sûr. Hein.
Donc là aussi, il existe une trilogie entre Léon Dufour, Jean-Henri Fabre et Jean Rostand. Léon Dufour, c'était un médecin saint-sevérin qui, le premier, a écrit des ouvrages ou un ouvrage des publications qu'a publié sur la végétation qu'il observé dans ses périples pyrénéens. Jean-Henri Fabre, lui, est né en Aveyron.
Fabre, ouais.
C'est un enseignant qui est mort dans le Vaucluse. Le nom du village m'échappe, mais ça va peut-être revenir. Et donc, lui avait lu les ouvrages de Jean Dufour. Et donc, lui sera plutôt entomologiste. On peut visiter d'ailleurs dans l'Aveyron, dans son village natal, une très belle exposition sur les insectes, Micropolis. Et Jean Rostand, gamin, à Arnaga, donc tombera sur Souvenir d'un entomologiste de Jean-Henri Fabre, et donc écrira gamin à Jean-Henri Fabre qui lui répondra. Et donc ça ressemble à l'histoire de Pierre Daret qui.
Donc il y a une espèce
de suite comme ça, de succession. Les mêmes écoutes ou les mêmes écrits produiront chez l'autre.
Le même phénomène. Après, c'est une génération aussi de scientifiques moi, que j'admire un peu particulièrement, personnellement, parce que c'est une période où les gens, il n'y avait pas, comment dire, de hiatus forcément entre scientifique et littéraire. Bien au contraire, en fait, des bons scientifiques, c'était des gens qui étaient capables d'exprimer des idées, des concepts, etc. C'était très important. Notamment, on en reparlera, la vulgarisation, c'était vraiment quelque chose qui tenait à cœur à M. Rostand, d'autant plus qu'il n'aimait pas trop la compagnie de l'humanité. Il avait un peu peur des êtres humains, disait-il.
Ouais, c'est ça, c'était le solitaire de Ville d'Avray. Bon, après, pour avoir reçu ou entendu des scientifiques qui le connaissaient, puisqu'il avait vécu à leur époque, il avait la chance d'avoir une vie qui lui permettait d'être comme ça, solitaire, et de mener ses entreprises en artisan. Dans son labo, il n'était pas soumis à d'autres... on va dire entre guillemets carcan que pouvait avoir.
Bien sûr,
Il n'avait pas d'objectif particulier. Sinon,
le côté un peu scientifique, en dilettante avec sa pension et des revenus.
Il était confortablement installé dans la vie.
Quelle chance. On va faire une première pause et méditer sur tout ça. On va écouter un petit peu de musique et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Mathilde et Patrick. Donc du coup, on n'a pas fini l'histoire, parce que entre ce moment, cette fameuse rencontre, cette émulation, et maintenant, il s'est passé pas mal de choses sur le site lui-même. D'ailleurs, il a changé le site au cours du temps.
Ah oui, il a suivi des transformations, puisque en 62, il restait que des prairies humides où Marie Barrère venait faire paître ses vaches, d'où l'anomalie paix. Marie est partie, le site a périclité, la nature a repris ses droits. Enfin, ce qui était des prairies se sont perdues avec le temps, où la nature plutôt s'est réappropriée ses espaces. Il restait quand même à cet endroit-là des vestiges d'étangs, puisqu'il y avait trois étangs qui étaient situés sur ce ruisseau, qui apparaissent d'ailleurs sur le premier cadastre napoléonien qui est en commune de Puy-de-Sault, où on voit les trois étangs qui sont positionnés. Donc c'était un lieu de vie très ancien et exploité par les populations locales. Une archive que l'on a à Puy-de-Sault, enfin au centre, une lettre de Jean Rostand à Pierre Daret qui date de 1972, je crois, où il écrit: je vous rappelle que ce centre aura pour but d'éveiller, de donner le goût des sciences naturelles aux jeunes générations et de faire d'éveiller en eux la conscience écologique qui fera d'eux des observateurs éclairés de la nature et des protecteurs éclairés de la nature. Donc,
c'est assez moderne, en fait.
On était en 72, l'écologie, on n'en parlait pas. Le terme n'était pas employé. Je crois que le premier politique qui se présentera, c'est Roger Dumont. Je crois que c'était 77 ou 18. Donc oui, c'était précurseur, oui.
Et oui, parce que c'est vrai que maintenant, bon, on en parle beaucoup, aujourd'hui on en parle, mais c'est vrai que c'est devenu... On a pris peut-être un peu plus conscience, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme Haroun Taziev aussi, il avait été un des premiers, je me rappelle très bien d'une émission, il s'était bien fait rembarrer par, comment il s'appelle, le monde du silence, par le commandant Cousteau.
Cousteau, c'était violent d'ailleurs.
Et ouais, il s'était bien moqué de lui, mais c'est des premiers, Haroun Taziev a dit, mais les gars, peut-être que le CO2, il y a peut-être un problème. Non, mais tu dis n'importe quoi.
Comme quoi, les controverses, y compris entre scientifiques, peuvent exister aussi.
C'est ça de l'utilité. Alors, qu'est-ce que c'est donc ce fameux centre biodiversité? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y voit? De quoi est-il constitué dorénavant? Il y a du monde qui va le voir. D'ailleurs, c'est un accès libre, je crois.
Oui, donc du coup, je vais prendre un petit peu la parole. Donc là, aujourd'hui, maintenant, le centre est ouvert tous les jours, de 10h à 18h, en accès libre et gratuit pour venir profiter et se balader. On a une très chouette zone de pique-nique. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur une toute la journée, apporter le pique-nique pour pique-niquer et ensuite vous balader et profiter de toute la faune et la flore qu'on peut observer en ce moment, comme par exemple notre petite cistude d'Europe, notre petite tortue française protégée qui a failli disparaître, ou bien encore dans pas longtemps que Patrick adore énormément les oplies qui sont magnifiques avec leur robe bleue, un petit...
C'est les libellules.
Non,
les oplies, donc c'est un petit scarabée, c'est de la famille de hanneton.
D'accord, ah oui, d'accord.
Jean Rostand en a parlé beaucoup d'ailleurs. C'est bleu couleur du ciel, donc c'est un petit bijou.
Ah oui, bah oui.
Qui en période de reproduction allume la lumière. Il faut des conditions d'ensoleillement particulières, et donc les mâles passent leur journée à monter, par exemple, sur une osmonde royale. Sommet étant l'objet, le lieu convoité, et donc ils vont passer leur journée à se basculer les uns.
C'est le printemps en plus, donc le printemps s'arrête
quand même. C'est le printemps,
un moment important. Il y a une variété de scarabées aussi qu'on retrouve dans les arômes au printemps, je sais. C'est pas cela par hasard ?
Non, c'est pas cela.
Parce que j'en ai déjà vu systématiquement.
Non, c'est pas rare dans un milieu humide, au bord des ruisseaux. D'ailleurs, quand ils s'envolent, ça fait un petit vol tout bleu. C'est plutôt magnifique. Mais nous, on les a présents sur. Je sais pas, sur 150 mètres le long d'un ruisseau.
D'accord.
Avant, il y en a moins, après, il n'y en a plus non plus. Donc c'est...
Et oui.
C'est leur zone préférée.
Mais on les voit que là, ça va démarrer mois de juin.
C'est vrai que vous êtes dans un petit bijou, j'allais dire. Hein. J'ai fait un parallèle hors antenne, on a discuté avec l'association que j'ai reçue, de la préservation des tourbières de Metz. Hein.
Oui.
C'est pareil, c'est des endroits qui sont... Alors, des zones humides, évidemment. On est dans les Landes, et c'est des sources de vie qui sont... qu'on a beaucoup de chance d'avoir encore. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut préserver.
Les tourbières, les zones de tourbières, du coup, dans les visites guidées, c'est des zones où j'en parle énormément avec les jeunes pour qu'ils se rendent vraiment compte de l'intérêt de ces zones-là, qui paraissent pas si importantes que ça, mais au final, quand on a la méconnaissance de ces zones-là, sont très importantes.
Oui.
Donc voilà, on accueille aussi énormément de public, donc scolaire ou même pas du tout, donc c'est vraiment ouvert à tous, mais c'est vrai que du coup maintenant on propose des formats sur la journée ou même la demi-journée donc sur la demi-journée c'est juste la visite guidée où on va faire venir découvrir l'histoire du site et du coup les espaces naturels qu'on a sur notre site, et la formule journée où on a la visite guidée le matin et des ateliers pédagogiques adaptés à tout type de public l'après-midi.
Très bien. Voilà. On va parler un petit peu de justement ce qu'on peut y trouver, hein, les ateliers pédagogiques et les gens qui viennent. On va d'abord faire une petite pause, on va écouter le flash info local cette fois-ci, et on se retrouve ensuite pour la troisième partie de cette émission. À tout de suite. Voilà, on est en train de parler un petit peu de tout ce qui se passait chez vous. Il y a aussi il y a un aspect pédagogique. Hein, il y a des modules qui ont été mis en place, etc. Parce que on continue un petit peu ce que voulait faire Monsieur Rostand. Hein, la vulgarisation. Alors d'ailleurs, j'ai une citation de lui. Voyons, qu'est-ce qu'il a dit ? Une définition de la, je pense, d'après moi, d'une voilà, travailler et réduire l'écart entre les spécialistes et la masse était une mission noble. C'est la définition de la vulgarisation, pour moi en tout cas.
Absolument. Ouais. Il a dit aussi, la science est un puits, nous en sommes le seau.
Ah oui.
Elle est pas mal celle-là.
Rabelais a dit aussi, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, bienvenue sur France Culture, chers auditeurs. Non, vous n'êtes pas trompés de fréquence. Donc retournons à nos moutons, même si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas de moutons.
Non, on n'a pas de moutons.
Et voilà.
Non, on n'a pas de moutons.
C'est un peu plus compliqué à garder,
oui.
Bien qu'on ait une terre à moutons.
Mais il y en a eu jadis.
Ah oui, certainement. Oui.
C'était une sorte d'aérial dans le coin ou...
Ah non, du tout, c'était de la forêt, mais c'était juste la proximité du ruisseau qui permettait d'une part d'élever du poisson dans les étangs et ensuite d'avoir des prairies humides, humides, puisque fraîche l'été.
L'eau, c'est la vie.
L'eau, c'est la vie.
Et oui.
Puis il y avait le lavoir, il y avait tout un tas d'activités qui dépendaient de ces endroits-là.
Oui, bien sûr.
Il y avait le moulin.
Déjà à l'époque, ils avaient remarqué que c'était des zones très riches et très intéressantes.
Oui, je ne suis pas sûr que c'était le caractère écologique qui les intéressait.
La nécessité faisait loi. Hein.
Ils se servaient du lieu pour essayer de mieux vivre.
Bien sûr. Ouais. Et donc, alors, il faut dire aussi que c'est une entrée libre chez vous. Voilà, on l'a dit tout à l'heure, mais bon, c'est intéressant à dire. Bon, par contre, c'est les contributions demandées si vous faites des fois des visites guidées. Ça, par contre, il y a une petite contribution qui est demandée.
Oui, une petite contribution qui est demandée pour la visite guidée, qui est intéressant parce que, bah, comme on échangeait juste avant, ça permet nous, on connaît les zones où il y a des choses intéressantes à observer. Oui. Donc, c'est toujours intéressant de prendre une visite guidée. Mmh. Mais il y a aussi la possibilité de venir se balader. On est sur un circuit à peu près de 3 km avec deux boucles. Oui. Donc, dans ces 3 km, on peut faire plein d'arrêts pour permettre de lire. Sur les modules, il y a différents modules comme par exemple le module de la forêt ou bien le module sur les oiseaux qui vont nous donner des informations sur ces thèmes-là. Mmh. Donc c'est aussi très intéressant juste pour venir profiter, se balader un week-end ou un jour dans la semaine, venir respirer. Quoi.
Ouais, bien sûr. Alors qui est-ce qui vient ? Qui sont les personnes qui visitent ? Vous avez des touristes au sens large du terme, des gens qui passent par là. Mais est-ce que vous avez toujours des actions avec les scolaires ou pas ?
Oui, énormément. Là, on est en pleine saison. Même cette année, en fait, il n'y a pas trop eu de saison parce que j'ai eu des visites guidées jusqu'à fin novembre. Mmh. Aussi très intéressant de venir à cette période-là parce qu'il y a d'autres choses à observer. La nature bouge et donc même en automne-hiver, il y a d'autres choses à observer très intéressantes. Par contre, en cette période-là, on est en pleine saison où à peu près tous les jours, on a des classes qui viennent. Mmh. Donc, ça peut être du tout petit. Hein. On a des tout petits, plus petits, j'ai eu de 2 ans et demi, jusqu'à des classes de BTS. Donc, c'est tout type d'âge, toute tranche d'âge, pardon.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une partie, une exposition permanente dédiée à Jean Rostand, évidemment, j'allais dire un mémorial ou je ne sais pas comment vous l'appelez.
Ouais, dans le bâtiment, il y a une petite exposition.
Mmh. Oui, il y a une exposition sur la vie et l'œuvre, enfin un condensé de Jean Rostand, d'ailleurs que l'on cherche à reproduire, à refaire parce qu'elle est un peu âgée. Alors c'est pas que le contenu est âgé, mais c'est plutôt les supports.
Le format, ouais.
Ouais, il faut remettre ça à neuf.
Ouais.
D'accord.
Mais là, c'est le trésorier qui va payer.
Ah oui, le trésorier qui est parmi nous, donc.
Et tout ça nécessite.
Oui. Alors, justement, parce que entrée libre, etc. Petite contribution. Il faut qu'on parle aussi d'argent. Hein, on a trésorier, mais c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui vous permet de fonctionner ? Quelles sont vos ressources et vos besoins ?
Alors, on est suivi et on a 3 types de financement. Donc, le département des Landes. Mmh. Au titre de la préservation des zones humides et de l'initiation à l'environnement, notamment au niveau des scolaires, on a l'agglomération de Mont-de-Marsan et on a une convention de partenariat avec le SICTOM de Mont-de-Marsan. Alors ça, c'est un peu plus original, puisque sur le site existaient des excavations. Donc, deux origines possibles. Soit c'était l'endroit où on avait sorti de la terre pour faire les digues.
Soit on a caché quelque chose dessous.
Et ensuite, soit c'était des sablières pour construire les maisons.
Ouais.
Et donc, certains ont profité du vide pour recombler avec des ordures.
Bien sûr, oui.
Donc, pendant très longtemps, ça servait de dépotoir.
Ouais, ce qui n'est pas terrible.
Oui, c'est pas terrible avec ce qu'on voulait faire. Donc, on s'était posé la question de dépolluer cet endroit et de sortir tout ça. Et bon, ça posait quelques problèmes techniques, sanitaires, etc. Le SICTOM nous a dit, on va prendre le problème à l'inverse. D'accord. On va plutôt montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, on a un partenariat avec le SICTOM. Et donc, c'est une offre pédagogique. En fait, c'est un peu particulier. Donc, on montre aux gens ce que l'humain peut laisser comme trace.
Oui,
donc, l'élimination des déchets, tout ça fait l'objet d'un module. Et donc, on a un partenariat avec les écoles qui peuvent visiter le SICTOM et le traitement des ordures et venir voir notre lieu où hélas...
Ça peut faire un petit circuit.
Le passage de l'homme est aussi prégnant à ce niveau-là.
D'accord, ouais, c'est pas mal. Et donc aussi, vous organisez aussi des choses aussi. Il y a une actualité, vous allez nous en parler.
Oui, en effet. Donc cette année, c'est la 4e édition du coup de la Fête de la Nature, donc qui se déroule au Centre de Biodiversité Jean Rostand le 7 juin. Donc c'est une journée entière totalement dédiée à la nature, avec des animations tout le long de la journée, avec des rencontres, des découvertes, avec des acteurs locaux passionnés, et le tout dans un cadre exceptionnel, parce qu'il faut le rappeler, notre site il fait 32 hectares quand même, à 15 minutes de Mont-de-Marsan, donc pas très loin de Mont-de-Marsan, et c'est un événement pour tous, donc petits et grands, vous allez trouver votre bonheur pour passer cette journée. Et donc, il y a quelques petites infos pratiques, c'est que cette journée se déroule de 9h à 19h. Il y a une buvette et une restauration qui sont proposées sur place, dans un cadre exceptionnel, tout le long de la journée.
Bien sûr. Ouais.
Voilà.
Alors, vous organisez ça, c'est quelque chose d'annuel, c'est une habitude ou c'est une première? Vous avez d'autres événements de ce type en général?
Donc, c'est la 4e année qu'on l'organise cette année. Et les autres événements, cette année, on a eu par exemple le Gaz Contour. Qui est venu sur le centre, donc c'est des petites de l'art de rue, il y avait du théâtre, il y avait une radio mobile qui sont venues
j'ai entendu parler de ça, oui.
Voilà, qui sont venues sur le centre faire une soirée, donc on a à peu près accueilli 300 personnes sur la soirée, et donc la Fête de la Nature fait partie de nos événements qu'on essaye de renouveler chaque année.
D'accord.
Voilà.
Alors moi je me demande, alors qu'est-ce qui reste de l'héritage de monsieur Rostand? Je ne parle pas forcément de matériel, mais de l'idée, de sa philosophie, des scientifiques. Est-ce qu'il y a des gens, des scientifiques curieux qui viennent des fois sur le site pour,
dans le monde scientifique, l'utilisation de l'animal comme objet de recherche n'existe plus.
Oui.
Donc pendant des années, Pierre Daret envoyait des têtards ou des grenouilles à la Pitié-Salpêtrière ou à différents laboratoires qui faisaient des recherches sur l'animal. Ça n'existe plus, donc cette relation-là s'est perdue. Il y a eu une prolongation avec un élevage de sangsues médicinales.
Oui, c'est ça.
Avec une société, le professeur Latrille, qui était un professeur de Bordeaux, de l'université de Bordeaux, qui lui faisait des recherches et utilisait la sangsue lors des opérations, notamment la période post-opératoire. Il existe à Audenge un laboratoire qui donc extrait l'iruldine pour en créer un médicament qui sert dans ces phases-là. Mais nous, ça s'est arrêté parce que une espèce invasive qui s'appelle l'écrevisse de Louisiane était très friande des sangsues, et donc c'était sans fin qu'il fallait réapprovisionner. L'expérience s'est arrêtée parce qu'on a énormément de mal à les contenir.
C'est vrai que l'expérimentation, alors même à l'Éducation nationale, dorénavant, il est interdit d'acheter des animaux qui auraient été élevés dans le but d'être, d'être disséqués. Faire les courses au marché. On peut acheter du poisson, du poulet au marché.
Fait partie d'une génération, on disséquait le ver de terre ou la grenouille en science nat.
La pauvre grenouille.
Pauvre grenouille massacrée sous les scalpels maladroits des générations d'élèves.
Et oui, les anesthésies loupées aussi. Bon, c'était moche.
On avait une relation au vivant peut-être qui n'était pas la même que maintenant.
Oui, c'est vrai, c'était peut-être.
Mais bon, il n'empêche que pour la grenouille, elle n'avait rien demandé.
Non, ni la souris, ni l'élève d'ailleurs.
Ni l'élève d'ailleurs.
Qui des fois partait en courant aux toilettes parce qu'il avait un petit au cœur.
C'était très violent.
Tu m'étonnes.
C'était violent.
Et voilà. Et c'est le moment de faire notre dernière pause. On écoute encore un petit peu de musique et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Et nous voilà à la fin de cette émission avec Mathilde et Patrick. Comme on a dit tout à l'heure, pour que tout ça fonctionne, il faut des partenaires. On a parlé un petit peu du montage financier, entre guillemets, parce que pour pouvoir mettre à disposition du public un endroit de qualité, on a parlé de biodiversité, la nature, c'est une chose à laquelle on est un peu attaché dans le coin quand même, toutes ces zones humides, avec toutes ces plantes et ces animaux. Donc ça se fait aussi grâce à des gens et aussi des institutions.
Oui, l'une des plus importantes, c'est la commune de Puy-de-Sault, qui est devenue propriétaire petit à petit de tout le site. Donc, qui a racheté tout ce qui est riverain, les étangs, le ruisseau, etc., et les berges du ruisseau, mais qui a acheté aussi de la forêt autour. Donc, elle est propriétaire de 30 hectares et en bail de location avec la commune de Puy-de-Sault. C'est une forêt en régénération naturelle, ce qui est plutôt rare.
Ouais.
Donc autrefois, il n'y avait que des pins, et maintenant, il y a une partie qui est plutôt boisée en châtaignier, chêne tauzin, chêne pédonculé.
D'accord.
Donc qui est dû à, voilà, c'est la nature qui a décidé que cette variété, ces variétés seraient plus importantes que les pins, alors qu'en 88, je crois, ou 10, quand les pins ont été coupés, il n'y avait que des pins à cette époque-là. Voilà, donc une autre partie sur un plateau, c'est plutôt du pin. Une autre partie où il n'y a pas grand-chose parce que c'est un peu argileux dessous et donc ça a du mal à repousser.
Oui.
Et les bords de ruisseaux, c'est plutôt du chêne pédonculé, de la bourdaine, donc qui est actuellement fleurie et donc qui sert de nourriture aux abeilles. Le miel de bourdaine, excellent.
Ah oui, le miel, oui, voilà, les abeilles. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que je pense que vous avez un des modules pédagogiques qui parle de ça, de consacrer à la ruche.
On aimerait créer, c'est un projet justement de créer un module sur les abeilles parce qu'on a un partenariat avec un apiculteur du coup et on aimerait créer un module par rapport à toute la vie sur le rucher et les abeilles.
Oui. C'est vrai que quand on parle de biodiversité, souvent on parle de l'abeille. Hein. Enfin, je vais pas refaire la citation d'Einstein, etc. Je sais même pas si elle est vraiment de lui parce qu'on veut dire tellement de choses aux gens qui sont morts, ce qui est très pratique.
Ouais.
Mais c'est vrai que l'abeille, quand même, l'abeille. Bon, pas qu'elle, il y a aussi les bourdons, d'autres variétés d'insectes aussi, pollinisateurs, ils sont très importants.
Ils sont très importants, c'est sûr, oui.
Absolument, oui. D'ailleurs, le déclin de toutes ces espèces posera peut-être problème à l'humanité. Donc, l'enjeu est quand même
primordial.
Et quand même, oui, primordial et prégnant.
Et oui, parce que les pesticides, c'est un sujet qu'on a abordé il n'y a pas longtemps, mais pas tellement par rapport à ça, mais par rapport à la maladie de Parkinson. On sait que les pleins de pesticides sont directement responsables d'une grande partie des cas de maladie de Parkinson. Et on sait aussi que les néonicotinoïdes, etc., ben les abeilles, elles n'aiment pas, ça les tue. Donc voilà.
Ouais, ouais, ben c'est la dualité entre nature, agriculture, vie des agriculteurs, etc. Ouais. Donc bon. Tous ces sujets sont c'est délicat.
Et oui, tout est intriqué. Hein,
Tout est imbriqué. Nous, on a la chance que notre site, notre site n'est dépourvu dans les alentours de champs, d'industrie. Il n'y a que quelques maisons, et donc c'est la vie des maisons.
Oui, voilà, ouais.
On a une départementale qui passe pas loin, c'est peut-être... la source de pollution la plus importante et les sources qui alimentent nos étangs et le ruisseau donc sur le site donc après c'est des eaux de ruissellement qui alimentent.
Oui, voilà, donc c'est sûr que s'il y avait en amont une grosse agriculture ou industrie, ben forcément ce serait pas la même chose dans
on peut penser qu'on est effectivement préservé de toutes ces sources de pollution.
Voilà. Eh bien, on vous fait confiance pour garder ça en bon état. Hein. Du coup, vous avez ça entre les mains. En responsabilité, je ne vous mets pas la pression. Hein. Mais bon.
On va essayer de transmettre.
Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est un patrimoine. Tout ça,
absolument,
c'est un patrimoine.
C'est du patrimoine vivant.
Ah oui, c'est important. Ouais.
Important.
Voilà, et puis on y tient. C'est un beau coin de verdure et d'humidité qu'il faut que les auditeurs aillent visiter. Bien entendu, je mettrai avec le podcast le lien adéquat qui permettra aux gens de vous consulter votre site. Hein,
venez, n'hésitez pas. C'est vraiment fabuleux.
Voilà, très bien. Eh bien, merci beaucoup tous les deux d'être revenus, d'avoir fait cette longue route jusqu'à nous pour nous parler de tout ça. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.